What's going on?
Ready, set, and begin.
La sexploratrice. Avec Mel Trudel et Camille.
Radio X.
Bonsoir, bonsoir. Merci d'être à l'écoute de la sexploratrice et la pêcheresse Camille.
Hello, bon vendredi, Mel.
Bon vendredi. Ah, il faisait-tu beau aujourd'hui?
C'était une belle journée. En fait, depuis le 1er mars, oui, il y a eu un petit peu de neige, mais il y a de l'espoir, là. C'est le printemps, on change l'heure la semaine prochaine. On va avoir... Oui, je t'apprends
déjà?
Quelque chose, hein? On avance l'heure déjà.
Wow!
Plus de luminosité,
déjà,
plus de chaleur.
Déjà, on le voit. Hier, oui. Avec mon fils, on le remarquait. Ah bon, enfin, on a gagné un peu de luminosité, mais...
On va avoir envie de porter du linge un peu plus léger aussi, les cabanes ouais. à sucre, puis tout. Tu auras l'occasion de nous parler de ce que tu vas faire aussi avec les célibataires
oui.
d'ici un mois.
Yes! Oui, je vais vous parler de ça tantôt.
Oui, oui! OK!
Non, bien, en fait, on peut le faire tout de suite.
Une chose à la fois.
Mais je suis toujours mal à l'aise de plugger mes trucs.
On aime ça. Ouais. Des célibataires, l'amour, du sirop d'érable, tu sais, pourquoi pas, là?
Et voilà, Camille, vas-tu venir? C'est à l'Inox Grande Allée le 1er avril qu'on organise la cabane urbaine pour les célibataires, durant laquelle on offrira une bière à l'érable.
Ben oui, c'est sûr, mais il y a de la bière, il y a de l'érable, il y a des célibataires, pourquoi pas?
Ben oui,
pourquoi
voilà,
pas?
Ça va être super le fun. Donc, 1er avril, il y a déjà plein de billets envolés. Faites ça vite. Donc, c'est ça, Camille, ce soir, on a décidé de réinviter notre collaborateur qui va venir quand même souvent, parce qu'il est toujours trop intéressant. Et
mais
c'est tellement intéressant.
Sur le sujet, on n'avait pas le choix. On a tellement... Je trouve qu'on a effleuré la dépendance affective. Et là, je pense qu'on va vraiment boucler la boucle en parlant un peu plus de l'aspect amoureux du couple ou encore dans la sexualité aussi.
Oui. Pourtant, sais-tu quoi? On a passé quand même une heure. On a eu Alexandre Cormon aussi, qui était des nôtres dans l'épisode 5, finalement, si vous voulez l'écouter. Donc, comme tu dis, on a vraiment effleuré... Les différents types de dépendance, on va quand même les rappeler aux gens, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de l'émission 5. Mais ce soir, on va vraiment, c'est ça, aller un peu plus loin. Et on va même aborder le sujet de la dépendance affective et la sexualité chez les dépendants affectifs et les insécures.
Oui.
Donc, les différents comportements sexuels. Et c'est avec Dr. Paul Simard qu'on fera cette belle émission. Donc, Dr. Simard qui sera notre seul et unique invité pour cette heure en votre compagnie, parce que ça passe toujours beaucoup trop vite. Et que c'est toujours très intéressant de t'avoir avec nous, Dr. Simard. Merci d'être là.
Psychologue.
Psychologue, excusez-moi, Dr. Simard, psychologue. Je suis toujours Dr. Simard. Oui. Est-ce qu'on dit seulement psychologue ou c'est Dr. Simard?
Non, mais toute l'appellation.
Toute
là,
la patente, là. C'est bon. Excellent. Donc, Dr. Simard, juste pour rappeler aux gens, dans la vie, il y a différents types de dépendances.
Oui.
On pourrait peut-être les renommer.
Bien sûr. Mais... En termes de psychologie, nous, on parle davantage de troubles de la personnalité dépendante. Donc, ça dépend des classifications. Donc, mais dans la psychologie populaire, il y a toutes sortes de formes de termes, on pourrait dire, associés à la dépendance. Et je crois que tu fais référence à dépendant, indépendant...
Codépendant,
contre-dépendant.
Oui, on entend souvent ces termes-là, puis c'est pas clair pour tout le monde. Donc,
c'est vrai.
Si on était capable de les expliquer, peut-être?
Ben, on pourrait dire que c'est des grandes tendances de gestion... de l'insécurité ou du vide intérieur. C'est que la personne qui est dépendante, elle va s'accrocher à l'autre personne pour pouvoir remplir son vide intérieur.
Oui.
Une personne qui est indépendante, elle veut pas avoir besoin de personne. C'est différent de l'autonomie. L'autonomie, c'est je m'en occupe, mais je n'ai pas besoin d'être indépendant, coupé des autres. Ensuite, il y a le codépendant qui va avoir besoin d'un partenaire pour cheminer dans son manque intérieur. As-tu une définition du codépendant, toi?
Codépendant, ben qu'est-ce que...
Ben ça ressemble beaucoup au dépendant affectif dans ma tête. Et c'est là qu'on va avoir besoin de Dr. Simard, psychologue, pour faire la
Moi, j'ai toujours
la
eu la discussion.
C'est
l'émission Si on s'aimait, par exemple. Ça parlait beaucoup de codépendance, de dépendance. Ça, j'ai comme...
Fais-moi pas pogner les nerfs sur cette émission-là.
Ah, oh! Excusez. Non, mais je suis comme... Ben là, ça devient pas un peu compliqué, là, les étiquettes de tout
oui.
là, tu sais. Bon, ça peut-tu juste être... j'ai besoin de l'autre pour me sentir valide ou...
Ben exactement. C'est une des choses, moi, que je reproche à ce genre de classification-là. C'est que c'est comme si tout est classé avec le mot « dépendance ».
Ouais.
Comme si les formes d'amour et d'attachement étaient prises dans un manque. Mais on peut aimer quelqu'un, partager de l'amour, vivre des insécurités sans être prisonnier d'une classification de dépendance.
Ouais.
Puis le dernier qu'on n'a pas nommé, c'est le contre-dépendant. Dans le fond, c'est quelqu'un qui va s'éloigner. On pourrait dire que c'est comme un contre-modèle. Prenons l'exemple d'un enfant qui dirait « Qu'est-ce que tu veux faire de toi dans la vie? » Il dit « Moi, je veux tout faire, sauf comme mon père. » Sauf quoi? Sauf comme mon père. Pas... Donc, dans le fond, c'est un contre-modèle. Donc, la contre-dépendance, c'est constamment en train de reculer par rapport à l'autre personne qui me fait chier. Mais c'est qui le centre de ta vie? C'est l'autre! Contre-dépendance.
OK. Et la codépendance versus la dépendance, je vois ça comme la codépendance, c'est quelqu'un qui est quand même fonctionnel seul, mais qui a beaucoup à récolter d'être en couple, ça se peut-tu?
Oui, mais comme je vous disais, c'est pas des classifications qu'on va utiliser dans les manuels diagnostiques pour des troubles de santé mentale.
Okay.
Donc, il faut prendre avec une petite pincette, là, une petite nuance là, par rapport à l'utilisation de ces termes-là. C'est très pratique pour décrire certains phénomènes cliniques, mais il ne faudrait pas penser que c'est universel.
OK.
Puis, c'est possible de passer de dépendante affective, bien, codépendante, je pense, intense, à très indépendante,
oui,
voire même évitante.
Oui.
Là, on mélange un peu le style d'attachement dans tout ça, mais
exact.
Je pense que c'est mon cas.
Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça?
Bien, moi, j'étais incapable dans ma vie, durant mes 22 années de vie de couple dans différentes relations, de quelques années, tout de suite, ça fusionnait. Je passais par-dessus les incompatibilités. Je fusionnais littéralement avec la personne. Mm-hmm. Puis je me disais, bon, c'est normal qu'il y ait des incompatibilités. Les relations, ça peut pas être parfait, donc...
C'est pas si grave, je vais accommoder
l'autre.
C'est
pas si grave, exactement, mais au bout d'un certain temps, ces incompatibilités-là devenaient des irritants.
Oui.
Mais là, tenter d'expliquer à l'autre que ce que j'ai accepté durant toutes ces années est finalement très irritant au point de... C'est mon problème.
Ça se renversait dans de l'indépendance. J'ai pas besoin de l'autre. Je vais m'organiser.
En fait, c'est ça. Dans toutes mes relations, j'ai fini par quitter. Mm-hmm. J'ai toujours quitté le bateau. Peut-être aussi par peur d'abandon, par prévention peut-être, ou je sais pas, mais bref, je suis toujours partie.
Il y a plus de
70, chaque fois, ouais?
Plus de 70 % des divorces aux États-Unis qui sont initiés par les femmes.
Ah oui?
Est-ce que ça se pourrait que madame, une fois qu'elle divorce, elle, son deuil est déjà fait alors que c'est l'inverse pour les hommes?
Fort possible.
Ah oui, hein?
Comme quoi, elle aurait envoyé peut-être des signaux semi-clairs ou clairs, mais qu'en tout cas, le gars, dans les modèles traditionnels homme-femme hétérosexuel, peut-être qu'il n'avait pas compris jusqu'à quel point le couple était fragilisé. Et moi, je vois souvent ça en consultation de couple, là, des couples qui arrivent, puis là, la femme, elle vient en consultation pour peut-être aider le chum à comprendre à quel point le couple n'existe plus. Puis lui, il dit, t'aurais pu me donner une dernière chance, puis t'aurais pu me le dire. Puis ça fait 4 ans que je te le dis à toutes les jours.
C'est ça. Mais moi, c'est là où les irritants, où je levais les flags, mais la personne, je veux dire, elle me tenait pour acquis, puisque... Depuis tout ce temps-là, c'est des irritants que moi, j'acceptais. Et là, tout à coup, ça devient... Tu sais, c'était comme... En tout cas, bref. Aujourd'hui, puis je passais toujours d'une relation à une autre. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Dès qu'une relation se termine, tout de suite, ils ont besoin de s'étourdir sur les apps. Ça, c'est quelque chose que je veux qu'on parle.
C'est quand même plus fréquent dans le style d'attachement ambivalent anxieux.
Okay.
Le fait de vouloir remplir le vide intérieur par... une autre relation rapidement. Donc, il y a deux profils là-dessus de rupture. Soit ils vont chercher un autre partenaire rapidement, ou soit ils vont rester accrochés après l'ex à y penser tous les jours, même s'ils sont séparés, là. Même si c'est eux qui ont initié la rupture. Ils restent accrochés.
Qu'est-ce qui explique ça?
Le vide intérieur qu'on ne s'occupe pas soi-même.
Oui. Donc, ça revient toujours à ça, en fait. L'importance d'apprendre à être bien avec soi-même, être... Créer
c'est ça,
son propre bonheur.
C'est flou, hein, ce langage-là. Comment on fait pour remplir le vide intérieur?
Oui. Comment on fait, Dr. Smart?
Il faut se donner de l'attention et des soins.
Il faut dater.
Oui, bien, on peut dire ça. Devenir une personne importante pour soi.
Et voilà. Ben, en fait, moi, je suis tombée en amour avec moi pour la première fois de ma vie. ça a l'air étrange de dire ça, mais je veux dire, j'ai appris à m'aimer enfin à l'âge de 39 ans. Pour la première fois de ma vie, je pouvais dire que j'étais une seule personne à part entière, que je me passais enfin en priorité, mon fils, moi, après ça les amours. Souvent, les amours sont venus en priorité dans ma vie, là.
Mais pourquoi?
Avant l'amitié, avant le travail, avant tout, là. C'est comme si...
Comment ça, ça glissait?
Ben,
là,
c'est ça. Si ça allait pas bien en amour, c'était mon univers entier qui s'écroulait. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont intenses comme ça. J'ai des gens qui m'entourent qui sont comme ça. J'ai une collègue qui, pour elle, là, quand elle vit une peine d'amour ou un conflit avec... elle est non fonctionnelle.
Oui.
Littéralement. Donc, tu sais... je sais pas. Puis autant, en fait, je pense que peut-être, parce qu'il y a d'autres journées où on va travailler ensemble, c'est comme...
Youpi, un feu d'artifice.
Ouais! C'est très intense. Puis je pense que l'alcool, avoir la danse, là, on tombe dans autre chose, mais...
La désinhibition.
Hein. Oui, j'ai l'impression, ouais, vraiment. En fait, quand les gens boivent, j'ai l'impression que le lendemain et le surlendemain, ils sont en espèce d'état de dépression. Oui. Après. Il y a le lendemain de veille, mais même après, là, j'ai l'impression qu'il y a des...
Il y a beaucoup de gens qui ne font pas le lien entre le fait d'avoir eu beaucoup de fun pendant le party puis le lendemain se sentir tout croche. Puis là, ils se réveillent le matin puis ils disent « Maudit que j'ai eu ça me sentir de même! » Puis ils vont bardasser tout le monde autour d'eux autres. Là, alors que s'ils comprenaient que le fait que je me sens mal le lendemain, c'est associé peut-être au fait que j'ai essayé d'avoir trop de fun hier soir. Fait qu'il n'est pas question ici d'être plate ou d'avoir une vie sans plaisir. Mais si on baisse un petit peu là, l'excès de fun, ah, c'est drôle, ça vient avec une baisse aussi de la souffrance le lendemain. Ouais. C'est la même expérience bout à bout.
C'est vrai. Puis on parlait aussi des dépendances. Ben c'est ça. Il y a des gens qui quittent une relation et qui tout de suite vont aller s'étourdir sur les différentes applications.
Ah oui.
Vont tenter de multiplier les rencontres à la recherche d'un partenaire très, très rapidement dans le but de se recaser rapidement parce que pour eux, l'idéal dans la vie, c'est d'être en couple. Pour eux...
Ouais, mais ils cherchent plus un feeling qu'une relation s'ils font ça.
C'est ça.
C'est d'être capable de se ressentir désirable, intéressant, trippant, face à l'autre, mais sans nécessairement se faire de plan.
Oui, puis le plus dangereux, c'est si ça marche. S'ils ont des matchs et qu'ils réussissent à avoir des partenaires. Parce que là, ça remplit de l'extérieur un vide. Puis là, donc, ça, qu'est-ce qui arrive quand on donne une récompense à quelqu'un?
Ben,
il multiplie le comportement encore plus.
Et souvent, ça, il y a des love-bombing. Il y a des gens adeptes de love-bombing hein, qui font ça.
Ah oui, des spécialisés là, là-dedans.
Le love-bombing qui est de, littéralement, lancer une bombe d'amour et de faire de l'autre
inonder
le centre de son univers.
Là, de...
Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ces personnes-là semblent sincèrement ressentir cet effet-là euphorisant et de dire « Hey! » C'est la femme de ma vie, on part en voyage, on habite ensemble, ça fait même pas deux semaines qu'ils sont ensemble, que c'est
exact.
Je te présente à mes enfants, puis tout ça. Qu'est-ce qui explique ce comportement-là? C'est des gens qui ont besoin?
Bien, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez fréquemment chez les profils d'attachement évitant de l'intimité. C'est qu'ils vont faire un spectacle, à quelque part, d'amour, puis ils peuvent même le croire eux-mêmes, de ce spectacle d'amour-là. Ils vont mettre ça tellement beau, tellement gros, puis tellement rapide dans l'engagement, puis se rêver avec l'autre, que l'autre, elle se dit « Wow, tu sais, j'ai jamais autant reçu d'amour de ma vie. » Puis là, vu qu'ils n'aiment pas l'intimité ou qu'ils sont mal à l'aise avec l'intimité, quand on les confronte à un enjeu affectif ou réel, ben là, whoop, oh, là, ils font silence radio ou ils se reculent pour aller régénérer dans leur grotte leurs ressources. Puis là, la personne, elle vit ça comme un vide, hein.
Oui. Bien, en fait, c'est un peu choquant.
Bien, difficile de ne pas voir ça comme un vide parce que c'est quelqu'un à la base qui est évitant et qui ne voudra pas s'engager. On parle beaucoup des dépendants, mais ceux qui sont évitants, comptent-ils, outre que le vide, là, comptent-ils à régler en quelque sorte? Ça vient-tu de l'enfance? C'est-tu un manque affectif qui les a bloqués et qui les refroidit pour d'autres relations possibles dans leur vie?
Bien, on pourrait dire qu'on s'installe dans cette zone-là là, d'évitement de l'intimité pour plusieurs raisons. Ça peut être parce qu'on est blessé, ça peut être parce qu'on on est méfiant, mais dans tous les cas, c'est que c'est relié avec la composition d'un spectacle. Puis ces gens-là vont souvent mentir pour pouvoir avoir des avantages, notamment des avantages de plaisir ou des relations utilitaires. Puis il y a différents profils de mensonges. D'ailleurs, on le voit d'ailleurs sur les applications de rencontre. Les données de recherche, ils nous montrent que les hommes, le mensonge numéro un sur les applications de rencontre, c'est leur grandeur. Puis ils vont simuler également, à travers leurs photos de profil, comme s'il y avait plus de ressources qu'ils ont en réalité. Fait que la photo du bateau, du char, les grosses chaînes en or, là, tu sais, ils
le
disent pas, mais ils montrent de manière artificielle. Puis les femmes, selon la recherche, bien, ils vont mentir avec leur poids. Où ils vont mentir avec leur apparence ou leurs âges. Puis là, il n'est pas rare que certaines femmes vont mettre des photos sur les sites de rencontres qui datent de 10-15 ans.
Ouais.
Ben, ou la fameuse dame qui va toujours prendre une photo de son visage, de selfie, de haut.
On appelle ça l'angle menteur, d'ailleurs.
L'angle menteur, ouais?
Ben oui, oui, parce que ça cache le double menton, ça met en avant la poitrine,
les
ça
seins,
cache la silhouette des hanches.
Effectivement. Mais souvent, ces femmes-là vont toujours repousser le moment de la rencontre jusqu'à peut-être même ne jamais s'y rendre parce qu'elles savent très bien qu'elles sont dans une situation pas mensongère parce que...
Ben,
pas
oui,
un
oui.
mensonge, c'est mais en même temps, dévoilez-vous sous votre vrai jour. Il n'y a rien de plus séduisant qu'une femme qui est bien dans son corps, qu'un homme qui est bien dans son corps.
Non, mais ça, c'est une réponse logique. Alors qu'ils font ces comportements-là pour des raisons émotionnelles. Quand on se sent insécure, là, on n'est pas de mauvaise foi. Hein. Ça fait vraiment mal. On perd nos repères.
Oui.
Puis on va faire n'importe quoi pour rétablir notre repère. Puis on va minimiser les choses. Puis c'est pas un si gros mensonge, dans le fond, là. Mais là, les gens, ils se retrouvent piégés dans leur propre stress.
Oui. Puis ça crée un énorme malaise lorsque la rencontre a lieu.
Oui.
J'ai quelqu'un qui m'a déjà raconté que la fille est arrivée, puis il lui a dit, écoute, je vais être honnête avec toi, tu sais, les photos que tu as mises sur ton profil, c'est pas tout à fait non. toi, tu sais. T'as pas intérêt à faire ça, en fait.
Façon polie de dire, je pensais que tu me disais la vérité, là. C'est... Non, effectivement. Fait que mais... vient un moment où il y a intimité avec la personne que tu rencontres, avec un partenaire de vie ou d'une nuit. Il y a la dépendance affective là-dedans. Il y a des patterns. J'appelle ça des réflexes un peu autodestructeurs, là. C'est-à-dire oui. qu'il y en a qui vont se livrer à 100% sans oui. s'écouter. Là.
C'est vrai. Ben, la spirale infernale puis la spirale virtueuse, ils sont toujours en train de s'affronter. Là. C'est que la spirale infernale, c'est un problème qui crée une résistance, qui crée un autre problème, qui s'effondre sur elle-même puis qui finit par s'écraser dans la souffrance. Alors que la spirale virtueuse, c'est composer à chaque pas un peu de santé. Comme je fais attention à mon sommeil, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à mes relations. Puis au final, je me ramasse que j'ai créé une spirale de croissance là, puis d'abondance. Mais les deux sont toujours en train de s'affronter là, à l'intérieur de nous. Ça fait comme une oscillation, là, vous savez, d'un cœur cardiaque, là, avec l'oscillation
oui,
au bas. Là,
oui.
Bon, ben, qu'est-ce qui arrive si on empêche de descendre dans les bas? Ben, ça va faire une petite ligne droite, mort. Mm. Donc, on a besoin des downs, mais on a peut-être intérêt à composer une expérience moins extrême de haut et de bas.
Okay.
Une vie riche en émotions, ça ne veut pas dire une vie dans laquelle on se défonce la vie, là,
oui.
complètement désorganisé.
Oui.
Il y en a un profil amoureux aussi là-dessus, hein, qu'on appellerait le style d'attachement désorganisé ou craintif. Il peut être très fonctionnel dans la vie de tous les jours, mais dès qu'il va rentrer en intimité ou dans les comportements sexuels, ça va être méga intense, puis quelques temps après, ça peut basculer, flip, dans quelque chose d'extrêmement horrible. Ils peuvent avoir des comportements vengeurs, alors que l'autre ne sait même pas qu'il a commis une faute.
Est-ce qu'on n'entend pas le gaslighting dans ce temps-là? Connais-tu cette expression?
Oui, ben, le gaslighting, c'est le détournement cognitif en français. C'est qu'on fait exploser une bombe à quelque part pour accuser l'autre d'être responsable de quelque chose.
C'est ça, oui.
Mais ça, je pense que c'est davantage fréquent dans l'évitement de l'intimité.
OK. Ouais. Et tantôt, on parlait de love bombing. Il y a aussi les gens adeptes de ça qui vont littéralement lancer une bombe d'amour, qui vont faire des grosses déclarations et tout. Et une fois que la personne est accrochée, ils n'ont plus d'intérêt. On peut passer de la femme de ma vie,
ben oui.
l'homme de ma vie, à une fois qu'il est là, une fois qu'il est acquis,
bof.
En quelques semaines.
Ben oui. Ou quelques heures.
Oui, ça peut être quelques heures, plus rien.
Mais c'est parce que
ça, c'est quoi,
la mécanique du désir, dans le fond.
OK.
Le désir, c'est qu'on ne peut pas désirer quelque chose qu'on possède. Alors qu'un besoin, ça fait du bien quand on comble un besoin, ça nous apaise. Mais un désir, dès qu'on le possède, on ne le désire plus. Regarde l'effet des super cadeaux de Noël qu'on offre à un enfant. Là. Hey, il est tellement content! Le lendemain, il l'a sur le côté, là, puis il fait comme d'habitude.
C'est vrai que l'humain a tendance à désirer ce qu'il n'y a pas
c'est ça, la mécanique
plutôt que d'apprécier ce qu'il y a déjà. Hein? Ça, c'est...
Exact, c'est difficile. Mais c'est une des mécaniques thérapeutiques les plus puissantes, ça. Tourner l'attention vers le contentement, la gratitude. Puis il y a combien de gens en relation qui... oublient de dire à leur partenaire hey, « Merci d'être dans ma vie. Merci d'échanger avec moi de l'amour. Parce que ça me fait du bien, ta présence.
Mm. »
Ah, des maudites niaiseries, là, cette affaire-là, tu sais. Puis là, ils banalisent ou ils prennent pour acquis.
Oui, absolument. Puis c'est vrai que des fois, ça peut être un peu gênant de dire ça à quelqu'un, mais c'est beau, tu sais.
Ben oui.
Faites-le. Il y a des gens qui sont aussi dépendants des applications de rencontre, pas nécessairement dans le but de rencontrer ou de passer à l'acte, mais simplement dans le but d'accumuler des matchs.
Oui.
On appelle ça jouer à Tinder, par exemple. C'est pour ça que moi, je dis toujours sur GoSeeYou, là, quelqu'un qui prend la peine de sortir sa carte, de payer, de créer un profil, d'être là,
pense que ça engage plus quelque chose.
J'ai l'impression que ça engage davantage. Il y a moins de monde, mais les gens au moins qui sont là sont plus sérieux dans leur démarche. En tout cas, jusqu'ici, c'est ce que je constate, c'est ce qu'on me dit aussi.
Oui.
Mais là, ceux qui ont ce comportement-là sur les applications de rencontre, comme Tinder, comme sur d'autres, c'est quoi leur à l'intérieur d'eux, là?
Mais de manière générale, on pourrait l'associer avec le désir narcissique.
OK.
C'est que lorsque vous allez... Vous savez, s'il y a des gens qui sont présentement à l'écoute, là, puis qui sont sur les applications de rencontre, puis qu'après avoir, même s'ils n'ont pas liké un profil ou s'ils l'ont liké, ils voient réapparaître le profil de la même personne deux jours plus tard. Puis là, ils like ou ils dislike. Deux jours plus tard, encore une fois, le même profil qui apparaît. Bien, ça se pourrait que ça soit une personne qui installe l'application juste pour recevoir des likes puis des clics j'aime, puis qui n'est pas vraiment intéressée à discuter puis encore moins à rencontrer. Elle veut peut-être juste, cette personne-là, remplir sa faille narcissique là, avec des likes puis pour passer le temps. Hein.
OK.
Les gens, ils oublient à quel point que c'est des êtres humains là, qui sont là au bout du fil.
Oui. Mais ça leur apporte, c'est quoi, c'est une sécrétion de dopamine? C'est une drogue pour eux? Ou... Moi, j'ai rencontré quelqu'un cet été qui m'expliquait que pour lui, quand il rencontrait quelqu'un, de devoir enlever les applications, c'était très difficile pour lui. Pour lui, là, d'échanger, d'avoir des matchs, ça le nourrissait,
quelque chose. Oui.
Il ressentait un vide lorsqu'il se débarrassait des apps. C'est hallucinant. Là. Oui. T'es là-dessus pour rencontrer, tu veux former un couple, mais ça te manque quand t'es plus avec... quand t'as plus ces applications-là. Ça aussi, c'est une certaine forme de narcissisme, peut-être?
Oui, bien, ça peut remplir quelque chose à l'intérieur de la personne, mais ça peut être plein de trucs. Là. Ça peut être à la fois de la dopamine, en effet, mais ça peut être aussi du cortisol, là, t'sais, l'amour du stress, là, puis de l'intensité. Là. Quand on enlève cette intensité-là ou cette possibilité d'avoir du plaisir potentiel peut-être, bien, ça confronte peut-être les gens à un sentiment de vide à l'intérieur d'eux. Là.
OK. J'ai une question qui a pour rapport avec la dépendance. Est-ce que
mais
je
non,
peux
mais,
y aller?
Ben oui, mais vas-y, c'est toi l'animatrice de show. Là. Tu fais ce que tu veux avec.
J'ai appris récemment que le stress pouvait se transmettre.
C'est contagieux.
Oui. On libère du cortisol. Je peux, oui. Moi, si je suis stressée, je peux contaminer...
Bien
Camille,
sûr.
De mon stress?
Oui.
C'est hot, ça. C'est hallucinant.
Bien, il y a plusieurs études qui ont été faites là-dessus avec des gens qui étaient dans le coma, comme par exemple. Je vais vous faire une résumé d'une étude là-dessus sur la réaction du corps à la présence de quelqu'un d'autre. Donc, il y a plusieurs niveaux de coma. Donc là, je ne vais pas rentrer en détail là, ce soir. Là, gardez à l'esprit qu'il s'agit de grandes tendances.
OK.
Mais, donc, dans une autre pièce, il y avait un chercheur qui était participant, dans le fond, d'une recherche. Puis là, il stresse cette personne-là, le participant. Il donne des claques d'en face, il pousse, il crie après. Ça fait monter son taux de cortisol au bout, là, au participant. Puis là, sa mission, c'est de rentrer silencieusement dans une pièce où il y a une personne qui est dans le coma. Puis là, dès qu'il rentre silencieusement dans la pièce, mais il est full cortisol à l'intérieur de lui, là,
ouais.
Ben, la personne qui est dans le coma, ben, on voit que son rythme cardiaque accélère et son poil se lève sur ses bras.
Hein?
Comment ça? Pourtant, il n'a rien dit, il n'a pas fait de son. Bien, il y a plusieurs choses qui peuvent réagir à ça. Il y a les phéromones, mais il y a aussi le fait que le corps, il perçoit des anomalies dans la présence d'un autre corps à côté de lui.
Oui.
Fait que le corps ressent qu'il y a un autre animal ou une autre personne à côté de lui, là, puis c'est comme bizarre qu'il y ait une respiration lente et silencieuse en même temps qu'il y a un rythme cardiaque élevé. Puis le corps ressent ça, puis là, bref... contagion du stress.
Ça me fait penser au réflexe qu'on peut avoir quand on se sent fixé, mais qu'on ne regarde pas, mais qu'on sent un regard qui est soutenant sur soi. Là.
Mm-hmm. Ça, j'ai pas de données là-dessus. Fait que je pourrais pas,
mais ça fait penser un peu à cet effet-là de tu le sais, puis là, tu stresses, tu te dis voyons, la personne, elle me fixe-tu, voyons, qu'est-ce que j'ai fait. Je pensais que c'est juste un effet comportemental, un ricochet, mais là, il y aurait vraiment de quoi de biologique. Là.
Ben, ça, c'est différent, je pense. L'effet du regard ou le poids du regard en tant que tel, c'est relié, je pense, avec des biais psychologiques de l'intuition.
OK.
C'est qu'intuitivement, se dit ben regarde, quand je me suis tourné, j'avais l'impression d'eux, puis il y avait effectivement quelqu'un. Puis là, ça nous marque, ça crée une empreinte que je le savais, dans le fond, je le sentais. Mais c'est un biais de confirmation.
Okay.
Parce que combien d'autres fois dans la semaine, vous avez tourné votre regard à quelque part, puis il n'y avait personne, c'est ça.
Mm.
Fait que c'est un biais de confirmation.
Il y a quelqu'un qui dit, on est narcissique quand on a besoin de savoir que quelqu'un nous apprécie. Non, c'est pas ça du tout, là. Il y a une différence entre avoir besoin du regard de tout le monde ou de plaire à tout le monde et d'aller chercher, finalement...
Bien, comme...
notre plaisir sans égard au plaisir de l'autre et aimer plaire, finalement, séduire. Il y a une différence, là.
C'est pas forcément pathologique, là, le désir de plaire, puis le désir d'exister dans les yeux de l'autre
on
personne.
On est toujours en mode séduction dans la vie, là, de toute façon, là, on va se le dire, que ce soit, je sais pas, moi, ben, pas en mode séduction, mais tu sais, je veux dire...
Ben, c'est d'avoir de la reconnaissance, peu importe les aspects de notre vie, que ce soit en amitié, au travail, en amour.
On veut toujours montrer la plus belle partie.
Non, pas toujours.
Non?
Il y a des gens que ça ne les intéresse pas du tout. Mais votre préoccupation là, que vous êtes en train de mentionner sur le regard des autres puis le désir de montrer le meilleur côté de soi, ça parle de vos valeurs. Bien, il y a des gens qui n'ont pas cette valeur-là parce que ça n'a jamais été renforcé. Prenons l'exemple d'un homme qui a une beauté moyenne ou plus basse que la majorité ou les standards de la beauté de la société, puis il n'est jamais renforcé, lui, sur le regard des autres. Fait qu'il ne cultive pas l'idée de ce plan.
Oui, mais je ne parle pas juste de plaire physiquement. Je ne parle pas dans la séduction. Je parle dans l'attitude, tu sais, dans la gentillesse, la bienveillance.
Non, c'est pas tout le monde qui a ça. Hein. Ça, c'est typiquement féminin, ce que tu es en train de dire. Hein. Parce que les hommes, de manière générale, c'est dur de comprendre à quel point les hommes se font ignorer dans les interactions sociales. Puis qu'ils ne reçoivent pas de formule de politesse. Ils ne reçoivent pas de sourire. Ils ne se font pas ouvrir la porte. Ils ne se font pas dire merci. Ils se font... Donc, c'est quand même assez froid, les échanges chez la masculinité, en général, bien sûr. Puis de manière, avec vos regards féminines, j'ai l'impression que vous êtes surprise un peu de ça.
Oui.
Parce que vous autres, vous devez recevoir constamment des sourires, des feedbacks, des
questions. Bien, moi, en fait, si quelqu'un a l'air bête devant moi, je vais lui faire un sourire, puis il va me faire un sourire. Tu sais, on dirait que je suis capable de faire switcher.
C'est peut-être le pouvoir de ton charme.
Mais c'est ça.
Non, mon sourire.
L'inverse, c'est vrai que... C'est vrai que les hommes, c'est très froid, puis ça a été appris comme ça, là, de génération en génération. Là. C'est un stéréotype sociétal.
J'ai vu... une femme qui témoignait d'une étude sociale qui avait été faite à New York dans laquelle elle s'était déguisée en homme. Okay. C'est une femme très séduisante, là, là-bas, selon les standards généraux de beauté. Puis elle s'est déguisée en homme pendant un mois. Puis elle est sortie de là traumatisée de son mois, de ses interactions sociales, parce qu'elle disait « c'est tellement froid ce que les hommes reçoivent ». Ouais. Elle dit « moi, je souffrais là, de tellement chaque jour de sortir ». Puis je me promenais dans la foule, puis j'étais comme un inconnu. Là. Personne ne me regardait, personne ne me parlait. Puis là, elle a réalisé à quel point, avant, elle mobilisait les regards sur elle. Mais pour le meilleur et pour le pire, parce que l'anonymat, le fait que personne ne nous voit, ça peut être reposant sur certains volets.
Oui, c'est ça.
Il y a d'autres études, d'ailleurs, sur le fait que les femmes paient en moyenne au Québec 400 $ de produits cosmétiques par mois.
Oui. Oh mon Dieu, ça, là, c'est le temps et l'argent que j'investirais pas. Bien, comme tantôt, tu vois, là, j'avais pas
par
le temps d'aller chez
an,
l'esthéticienne. Ça que... je me suis refait une petite...
Mais t'as acheté pareil du vernis! T'as acheté pareil du vernis! Tu sais, t'as investi en cosmétique et en beauté.
Mais tu sais, j'ai pas le temps d'aller faire les cils puis les sourcils puis les... Tu sais, je suis pas une
fille,
là, tu sais. De la crème, oui, j'avoue.
Ça. Combien
mais ça, j'ai
mois?
Commencé tard. Puis j'ai
des boucles d'oreilles.
En maudit. Oui, mais jamais deux pareils parce que j'ai peur tout le temps.
T'as des bagues.
C'est ça.
T'as des bracelets.
Hey, ça, c'est quelque chose dont il faudrait parler.
Regarde-moi, j'en ai.
Je porte les bagues de deux ex.
Quoi?
Ouais.
On parle de ça.
On peut-tu parler de ça?
Tu
mais honnêtement,
à tes ex.
Ben non, c'est ça le pire. C'est que c'est des bagues que j'ai retrouvées dans un déménagement. J'ai fait, ah, crime, je m'en cherchais justement. Je vais les porter.
Tu viens de garder des souvenirs?
Des souvenirs,
mais,
oui.
Mais j'ai pas d'attache. On dirait que je sais pas, ils me rappellent pas mes ex.
Non, c'est ça. Ça dépend du lien affectif qu'on a avec les objets. Là.
Je sais pas quoi faire avec. Je me sens mal. Je me suis dit, je pourrais peut-être aller faire fondre, faire un nouveau bijou.
Ah!
En même temps, je me dis, il y a quelqu'un qui dit, va les vendre. Mais voyons, je peux pas vendre un bijou qui m'a été offert.
Faudrait pas penser que systématiquement, ça veut dire bijou de l'ex égale. Ah, regarde, tu penses encore à ton ex.
Ouais.
Non, non. La symbolique qu'on porte aux objets puis aux dates. Puis au lien Facebook ou pas, c'est propre à chacun. Il y a des gens que lorsqu'ils se remettent en couple, ils effacent toutes les anciennes photos d'avec leurs ex sur Facebook.
Il y en a qui, quand ils deviennent en couple, ils effacent toutes les photos de l'ex et vont supprimer les amis de l'ex et toutes les personnes du sexe opposé.
Ouais, là, ça va loin.
Ben, c'est ça, la composition d'un nouvel équilibre qui peut être marqué d'insécurité.
Seigneur.
Ou de sécurité.
Hey, mais un red flag, là?
Mais moi, jamais je demanderais à une partenaire de supprimer des amis Facebook.
Mais non, mais je veux dire, si t'as pas confiance en ton partenaire, ta partenaire à ce point, qu'est-ce que vous faites ensemble?
C'est pas une question de confiance dans la partenaire. Ben... C'est de l'insécurité intérieure qui est projetée sur l'autre personne.
Ouais. Oui, c'est ça, mais je veux dire...
C'est comme la jalousie.
Oui, exact.
Ouais. C'est j'ai peur de perdre l'autre, fait que je veux la posséder de manière exclusive. Puis je vais reprocher à l'autre personne... d'avoir des amis encore, tout ça. Mais en fait, ça n'est un exemple ça, de gaslighting là, via la jalousie.
Oui, ça en est ça.
Va t'accuser, toi, d'être responsable du comportement que, regarde, si tu le faisais pas, je me sentirais pas de même. Il faut être très habile à reconnaître les stratégies de manipulation comme ça.
Mmh. Aïe, aïe, aïe. Ouais.
Idéalement, on va sécuriser le partenaire. Mais si c'est pas possible et qu'il persiste là, de manière intense, voire toxique, peut-être qu'il va falloir mettre des limites. Puis si la personne ne comprend pas avec des limites, ben faut peut-être des fois même utiliser des onomatopées, là, des bruits. Là, c'est un peu de la même manière
comme
qu'on
un
va...
chien?
Ouais, c'est un peu de la même manière qu'on va dresser un bébé chien pour plus qu'il nous morde. On va mettre notre doigt dans sa bouche, puis là, il va nous mordre, puis là, on fait « Aïe! » Puis là, il va être traumatisé, il va faire comme un petit geste de queue.
C'est ça.
Mais il faut dire peut-être au partenaire « Arc! Ouch! Ouch! Tu me fais tellement mal quand tu me fais ça. » Puis là, mais dire ce qui nous habite,
oui,
à l'intérieur de nous, ça, c'est un partage.
Oui.
Mais moi, je vois souvent en consultation des gens qui, plutôt que de partager ce qui leur fait mal, ben ils justifient au partenaire. Ben non, t'as pas raison de ça.
Ouais.
Ben non.
Pire affaire.
Oui, puis là, ils nourrissent le problème quand ils font ça. Oui.
Ouais.
Parce que là, ils donnent de l'attention à la personne insécure, mais de l'attention en nourrissant l'insécurité.
Mmh. Tu grossis le trou, là.
Exact.
Hey, moi, j'ai déjà acheté la paix en donnant tous mes accès. Puis, tu sais, regarde, parce que des fois, j'avais des clients masculins qui m'écrivaient.
C'est un onomatopée là... de découragement.
Hey, non, mais on aurait dit que ça empirait. Ça faisait juste empirer parce que là, si un tel m'écrivait pour avoir de l'information, oh, mais dans le fond, c'est sûrement pas pour ça. Je suis comme, oh mon Dieu, ça finira jamais.
C'est ça, c'est comme donner raison.
Non, ouais.
C'est
donner du pouvoir.
Moi, je pense qu'il y a,
plus qu'autre chose.
Il y a un bon timing, en fait, sur le plan thérapeutique, hein, pour donner les accès puis fouiller dans les téléphones et tout ça.
Mais comment
c'est
on
un accès très
là?
Court dans le temps,
ouais,
qui ne doit pas dépasser quelques semaines après, mettons, une trahison ou un événement. Là, puis là ça peut-être aider de montrer ce qui se passe dans le téléphone. Mais si ça perdure plus que quelques semaines, là, ça devient vivre avec un enquêteur dans sa vie intime.
Tout le temps.
Et personne ne peut se sentir à l'aise de vivre avec quelqu'un qui nous enquête au quotidien.
Non, c'est de marcher sur des œufs tout le
temps. Exact. Fait que moi, je ne recommanderais jamais à des gens dépasser la crise, là, peut-être 3 semaines. Jamais je vais soutenir une personne.
En moyenne?
Ouais, en moyenne, on pourrait dire ça. Le temps que les cytokines dans le cerveau...
Disons, il y a eu une trahison.
Oui.
Puis toi, tu serais... pas fermé à ce que, disons, que la partenaire, le partenaire...
Je veux voir ton téléphone.
Je veux voir ton téléphone. Puis bon, pour rassurer, ce serait sain...
De manière temporaire.
De manière temporaire, c'est ça.
Parce que sinon, c'est comme être complice d'une hémorragie. Là.
Exact, ouais. C'est ça. Il faut faire confiance à un certain moment.
Exact. Puis là, c'est propre à chacun, bien sûr, la composition de ce nouvel équilibre-là.
Ouais.
Mais il ne faut pas penser que c'est systématiquement mauvais regarder dans le téléphone, mais il ne faudrait pas non plus penser qu'il faut que ça soit bord ouvert toute l'année, à jamais. Puis là, il y a d'autres personnes qui vont dire, « Ben moi, j'ai rien à cacher, fait que c'est regarde dans le mien quand tu veux, je veux pouvoir regarder. » Mais moi, je trouve que c'est délicat là-dessus. J'ai vu des couples que c'était très sain, puis qu'il n'y avait aucunement... Quand ils regardaient dans le téléphone de l'autre, c'était juste pour parler à ma tante ou aux enfants.
Prendre photo.
Puis, c'est ça. Puis il n'y avait pas de problème. Là. C'était pas pour fouiller.
Ouais.
C'était pas de l'intrusion, c'était du partage.
Ouais.
Donc, mais c'est où la ligne entre le partage puis l'intrusion? Si...
Mais moi, je pense qu'à partir du moment où tu fais quelque chose tu fais quelque chose que tu sais que ton conjoint ne serait pas à l'aise à ce que tu le fasses. T'sais, mettons, tu t'en vas... Bon, tu prends le téléphone pour prendre une photo, quoi que ce soit, puis là... Je vais aller voir les textos, je vais aller voir les... Ça, selon moi... Ouais, la curiosité. Ça, selon moi, c'est pas sain. Puis si t'as des doutes, ben, faut que t'aies une discussion avec ton conjoint. Faut pas que t'ailles fouiller dans son téléphone. Là.
Exact.
C'est la communication, on revient à ça.
Ben oui. La communication, tout le temps.
Moi, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit à une partenaire que j'avais vraiment le goût de fouiller dans son téléphone.
Mm.
Puis là, elle dit, ah ouais, pourquoi tu me dis ça? Ben, c'est justement pour pas que je le fasse. Je veux te faire un cadeau, que je te partage qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que là, je me sens insécure ces temps-ci. Puis là, elle me dit, ah, OK. Puis là, on a pu parler du sujet.
Ouais.
Donc, il y a une grande différence entre parler de puis le faire.
Mm-hmm. J'aimerais tellement que ce soit simple de même. Hein?
Ben, c'est... on peut simplifier la vie comme ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers la simplicité? Les avantages secondaires. Le contrôle. La gestion, camouflage de mon insécurité.
Mm.
Comme ça, je préserve mon ego quand je camoufle mon insécurité.
Ouais.
C'est un gros avantage secondaire.
Il y en a qui ne sont pas capables de marcher dessus.
Ah oui, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je l'ai appris progressivement, donc je prends le temps de le partager parfois à des gens à titre, pas pour dire que je suis meilleur qu'un autre, mais pour dire que c'est possible de cheminer là-dessus puis d'apprendre la sécurité émotionnelle.
Ah, mais ça, c'est clair. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment développé, puis là, je suis comme dans une relation hyper dans la non-possession, dans la compersion, dans, tu sais, vraiment... à l'opposé de ce que j'ai vécu. Puis je suis super bien. Fait que je me dis, OK, c'est possible d'atteindre une certaine forme d'aisance et de bien-être dans une relation, même à distance. Et je vous le dis, même les relations à distance, j'y croyais pas, mais pas du tout à l'époque. Puis là, j'ai l'impression que c'est l'idéal pour certaines personnes, en tout cas pour moi, puis pour des couples que je vois, pour qui c'est vraiment la formule idéale. Ouais. Donc,
c'est ça, on pourrait réfléchir aux raisons qui font que les gens veulent aller vers la fusion.
Ouais.
C'est très relié, je pense, avec le désir de fonder une famille. Parce que quand on a des enfants en bas âge, là, puis qu'on est surchargé par tout ce qu'on a à faire pour s'occuper des enfants, c'est pratique en maudit d'avoir l'autre pas loin pour nous aider.
Mm-hmm.
Mais là, dans un monde où il y a peut-être moins de familles unies...
Chacun sa carrière.
Ouais, c'est ça. Il y a moins de modèles traditionnels. Fait que les gens,
familles sont déjà créées.
C'est ça. Ils sont peut-être en train de se dire que finalement, la vie à fusion dans une seule maison, un foyer, c'est peut-être pas conforme à la promesse que la société nous avait faite là, c'est sur le bonheur.
Je pense
la société.
Je suis un bon avant de faire la pause parce que je regarde le temps. Je suis un bon cobaye pour ça parce que, écoute, dépendance affective ou pas, ce sera au psychologue de trancher. Mais moi, je suis dans le modèle très traditionnel de fusion, de à la limite du mariage. Puis j'ai dans mon ancienne relation, à mes yeux, plus je fais un post-mortem de ça. Peut-être étouffer un peu trop la flamme au profit de justement faire une équipe, bâtir de quoi, avoir des projets, puis que j'ai pelleté beaucoup au point de faire suffoquer quelqu'un, puis au final, je me ramasse devant rien, tu sais, aujourd'hui.
Bien, en fait, il n'y a rien parce que tu regardes peut-être à l'extérieur, mais si tu regardes à l'intérieur, tout est là.
Ça, c'est vrai.
Oui. Oui, c'est juste que, tu sais, au point, quand j'y ai rien, c'est je voulais une relation, je me tourne, il n'y en a plus. Je suis en relation avec moi-même. J'ai tellement voulu quelque chose que j'ai fait fuir.
Ben oui. Fait que là, maintenant, il reste à tirer un apprentissage de ça.
Oui.
Convertir l'expérience en apprentissage. Il y a combien de gens qui vont répéter dans l'espoir d'avoir un résultat différent?
Mais oui, mais en même temps, moi, je la sens très... j'ai l'impression que tu te mets responsable...
Ben,
alors que j'ai...
Vous
étiez deux?
Ouais, mais tu sais, si je peux prendre mon 50%
Je pense pas que tu sois entièrement responsable.
Non, effectivement. Mais tu sais, si j'avais à faire mon post-mortem à moi, du regard de la situation, c'est sûr que j'ai tout fait une flamme. Là,
maintenant, il faut vraiment que tu retrouves ton bien-être à toi intérieur. Puis tu vas être capable de retrouver ça, j'imagine,
dans une
autre
relation. Mais des fois, il
faut
pas le faire trop vite. Il faut regarder la souffrance. Moi, j'en ai scrappé aussi. Donc, je suis de tout cœur avec toi là-dedans. J'en ai scrappé des amours. Puis, je ne savais pas comment ça marchait. J'étais très malhabile. Puis...
On n'a pas de cours là-dessus. À l'école, on devrait tellement avoir des cours de bienveillance, apprendre les styles d'attachement, les langages amoureux, l'importance de connaître notre langage amoureux.
Mais c'est parce que toi,
ça
tu trouves ça important
tellement.
Que tu dis ça. Quelqu'un qui t'inviterait un spécialiste des finances, il dirait « On devrait enseigner les finances à l'école. »
Oui, c'est ça.
Mais oui et non. Tu sais, je veux dire,
juste
les relations
cartes de crédit.
Un peu, oui.
Non, mais les relations humaines en société, là, la base. Tu sais, je veux dire, on interagit, excusez le bruit, on a...
C'est un immense impact, c'est sûr.
D'accompagnement en studio. J'ai l'impression que si on apprenait les styles d'attachement et les blessures, peut-être au début de l'âge adulte, disons à la fin du secondaire, c'est là où on vit toutes sortes d'émotions et les premières relations et tout. Bien, si on était conscient qu'on traîne des blessures, qu'on peut les guérir, et si en vieillissant, moi, j'ai pris connaissance de mon langage amoureux et de mes blessures et de mon style d'attachement il y a quelques années à peine, parce que je me suis décidée à m'intéresser à ça. Mais si j'avais connu ça avant... Mais tabarouette, je suis persuadée qu'il y a des choses qui auraient été gérées différemment dans mes relations.
Ouais, mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si, là, maintenant, tu fais un regard sur ce qui s'est passé puis tu dis « j'aurais pu moins souffrir ». Mais si tu n'avais pas passé par là, tu n'aurais pas fait les apprentissages que tu as faits grâce à ça. Fait, moi, je pense qu'il ne faut pas essayer d'éviter la souffrance.
Non, ça, je pense pas.
Puis j'ai l'impression que culturellement, ça avance d'une génération à l'autre, progressivement. Il faut être très humble, C'est sur le fait que moi, là, je vais transmettre mes blessures à mon enfant, mais on va peut-être essayer d'y transmettre un peu moins.
Oui. C'est bien dit, ça.
Oui.
Et le plus beau cadeau qu'un parent peut faire à son enfant, c'est de lui permettre d'aller plus loin que lui-même.
Oh, c'est beau, ça. Là-dessus, on va faire une pause.
La sexploratrice avec Mel Trudel et Camille.
Radio X.
OK, tout le monde, on vous demande de nous contacter au 670-9098 si vous avez des questions. Vous pouvez nous texter, vous pouvez nous appeler. On aimerait beaucoup prendre les lignes ouvertes, mais là, on ne sait pas si on va avoir le temps, mais...
On n'aura pas de temps, donc je préfère prendre les questions à la volée sur la partie numéro 2 qui s'en vient, ou si vous en avez eu depuis qu'on a débuté l'émission. N'hésitez pas, on fait ce show-là extrêmement interactif aussi, même s'il est très court. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour Dr. Paul Simard, psychologue, ou encore sur le sujet de la soirée. Là, on s'en va sur une deuxième partie, sur un autre volet que j'ai très hâte, qu'on... Qu'on fasse la nomenclature et la liste, parce que j'ai vu les feuilles, là, les notes de Paul. Il a l'air d'en avoir plus qu'un, là.
Ouh, les formes de désir.
Oui, absolument. Je veux juste vous rappeler, OK, pour ceux qui sont en live Facebook et ceux qui sont sur TikTok, de nous contacter via le 418-670-9098 par texto, parce qu'on ne peut pas vous lire. Donc, c'est vraiment l'idéal de passer par texto pour qu'on ait vos questions. 418-660-9098.
Yes!
Donc,
on a plus
la
qu'un
diversité
désir.
Et l'éveil du désir sexuel. Quels sont les différents types?
On va faire un sprint condensé.
Let's go!
Parce que là, il y en a tellement.
Oui!
Mais une des choses que je remarque, moi, c'est que les gens ont souvent tendance à croire leur propre vision du désir comme étant normale. Puis là, ils vont reprocher aux partenaires de ne pas l'aimer suffisamment là, quand ils font, ils partagent pas le désir.
Mais tu vois, je pensais que c'était une forme de langage amoureux ou de langage érotique, ça.
C'est similaire. C'est un schéma, c'est un pattern. Donc, il y a plusieurs sortes de nomenclatures par rapport à ça. Et on pourrait nommer quelques catégories, puis je vais vous donner des définitions brèves.
Oui, let's go.
Bon, le désir gourmand. Ça, c'est des gens qui ont besoin là, d'avoir un gros buffet de sexualité, là, en abondance, là, avec beaucoup. Puis c'est long. Là, ça. Il y a des gens qui sont vraiment turn on juste parce que c'est gourmand. Là, c'est... Il y a d'autres personnes, eux, qui vont avoir un désir plus spontané. C'est que ça émerge à l'intérieur d'eux, mais oh! Puis ça, là, ils flattent un peu, ils touchent un peu, puis là, ça peut partir. Donc, on pourrait aussi appeler ça des collations sexuelles, contrairement au buffet.
OK.
Savoir grignoter un petit peu partout là, dans la journée. Ouais. Tout ça. Parce que n'est pas obligé que ça soit toujours un buffet. Même si vous, ce que vous aimez, c'est faire un 6 heures de marathon sexuel. Peut-être que votre partenaire, lui, il apprécierait un petit vite de collage.
Une bouchée à foie.
Oui, c'est ça.
Tellement. Mais oui.
Il y a le désir préparé également. Installer les choses. Là, il faut que tout soit prêt, de la bonne manière. Tout ça. Mais pour quelqu'un qui est allumé par le désir spontané.
Hey, c'est une perte de temps. Hein?
Hey, l'autre, là, qui il se dit, ben, on me semble que là, tu m'aimes pas, t'es jamais excité par moi. Puis l'autre dit, ben oui, c'est juste que moi, il faut qu'on prépare les choses.
Ça serait le fun que tu sois, c'est ça, que l'ambiance soit là, que tu portes un petit déshabillé. Que...
Les désirs jeux de rôle.
Oui.
Le fait de faire des prises de rôle de toutes les sortes. Il y a des gens qui ont toutes sortes de fantasmes là-dessus. Là.
C'est une question, Dr. Simon. Oui. Qu'est-ce que vous pensez, Dr. Simard, des... OK, je vais tutoyer. Dr. Simard, qu'est-ce que tu penses des jeux de rôle du fantasme de l'écolière?
Oui.
Sachant que les écolières portent le costume jusqu'à la fin du secondaire, en général?
Bien, l'infantilisation, c'est un des fantasmes qui est mis en scénario le plus fréquemment parce que ça renvoie à une grande naïveté. Mais là, les gens, ils jouent un rôle. Ils sont pas vraiment... Il n'est pas question ici de pédophilie.
C'est ça. C'est ça, mais j'étais curieuse de savoir quelle était ta position par rapport à ça.
Oui, ben, je pense que ça peut faire partie des fantasmes imaginaires pour s'amuser dans la prise de rôle. Mais là, ça devient un problème si les gens, ils consomment des relations avec des gens qui sont de manière adéquate. Là.
Mais tu sais, si la femme se déguise en écolière et joue le rôle d'une écolière...
Oui.
C'est là que j'ai un problème, on dirait.
Mais pas si où le problème?
Ben, elle se met dans le rôle d'une jeune fille pas majeure.
Ben oui, mais il y a des gens qui se mettent dans une posture de se faire attacher avec des cordes japonaises, puis c'est bizarre, mais...
Ouais. Hey! Non, mais on parle de Shibari ici. Écoutez l'épisode 2. Non, 3. En tout cas, on parle de Shibari. Non, mais je sais pas si je m'explique
bien.
Hey, est-ce que je suis
fond...
toute seule à être mal à l'aise avec ça? Qu'est-ce que vous pensez du fantasme de l'écolière? Moi, je suis curieuse. Moi, j'ai un malaise avec ça.
Ben, l'Ordre des infirmières, cette année, à l'Halloween, ont fait d'ailleurs une sortie pour dire que le costume d'infirmière sexy, c'est
mais
inadéquat.
Mais elles sont majeures, ces femmes-là? Une infirmière, c'est majeur. Une écolière, c'est pas majeur. Une écolière, c'est à maximum 16 ans.
On pourrait peut-être faire une distinction là-dessus en termes psychologiques sur la différence entre la pédophilie et l'ébéphilie.
C'est... Le...
L'ébéphilie.
Okay.
Vous n'avez jamais entendu ça, la distinction?
Non. Ben là, ben, les béphilies, en fait, je ne sais pas c'est quoi la définition.
OK, bon,
les
béphilies, c'est d'être attiré par une personne qui est mineure, mais qui a quand même eu l'apparition de ses caractéristiques sexuelles secondaires.
OK.
Donc, mettons une adolescente qui a des seins, qui a des formes, puis qui est maquillée, puis qui a de l'air d'une femme.
Elle a l'air d'une femme.
OK. Bon, mais ça, le fantasme ébéphile, ça peut rejoindre. C'est pas du tout la même mécanique, en plus neurologique, là, que la pédophilie. Ça, c'est des attirances sexuelles pour des enfants avant la puberté.
Ouais, ouais. OK.
Donc, c'est pas pantoute le même profil non plus neurologique chez les gens.
Donc, moi, j'ai en tête la Britney Spears de l'époque, là, tu sais.
Ouais.
Oups, I
didn't... Ouais, bon. Ouais.
Tu le fais bien.
Puis, non, mais... Puis, quand on écoute les paroles, il y a beaucoup de tonnes hein, qu'on réécoute
ouais, ben,
de Lolita, nos jours. Que...
un moment aïe, aïe, aïe. Un moment d'égarement, là. Il y a un film français, d'ailleurs,
bon,
sur ça.
OK, fait, en tout cas, bref, OK, fait que c'est sain. Ce serait
sain. Si c'est un jeu dans le rôle, c'est pas forcément malsain. C'est si ça crée de la confusion entre la réalité et le rôle que là, ça peut devenir malsain.
D'accord.
Mais il faut comprendre, avant le désir de jeu de rôle, on aurait pu citer le désir fantasmatique. C'est qu'il y a des gens qui vont se raconter de la scénarisation érotique
ça,
pour s'allumer. Mais il y a des gens qui ne veulent pas le faire là, sous forme de jeu de rôle. Ils veulent juste se scénariser ça dans texto. Puis
mais moi, je suis comme ça. Bon, je ne sais pas vous autres. Qu'est-ce que ça... Hey, on va-tu là? Mais
qu'est-ce que ça dit? C'est une émission
okay,
de sexe.
Parfait. Bon, ben moi, personnellement, me déguiser, là, c'est pas en tout quelque chose qui m'allume, mais les scénarios, waouh, ça m'allume.
C'est pas pour rien que les femmes généralement aiment les romans érotiques, là. C'est que ça de la scénario.
Aïe, 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 oui.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ben, d'ailleurs, sur les fantasmes, il y a des profils de recherche qui ont été faits au Québec, là, puis qui démontrent que quand on demande à une femme si elle voudrait réaliser son fantasme, là, qu'elle a scénarisé, là, puis qu'elle a raconté, il y a beaucoup de femmes qui vont dire ben non, moi je voudrais pas faire ça. Là,
mais c'est vrai.
Puis tu demandes à un homme, toi, tu veux-tu réaliser ton grand fantasme? Il dit ben oui.
Souvent, avec un le grand fantasme sourire, le ben plus populaire, c'est le triolisme.
Ah oui, pour les hommes?
Pour les hommes?
Oui, oui.
Ouais. Mais les femmes aussi, je pense.
Non.
C'est plus du lesbianisme. Pour les femmes?
Ben, en fait, c'est un petit peu compliqué pour les femmes. C'est que
selon
la recherche que j'ai lue, parce qu'il peut y avoir toutes sortes de profils
on
de
va dire les personnes ayant un vagin et des hommes ayant un pénis, parce qu'aujourd'hui...
Je vais mettre 4 couches de gants blancs pour parler de ce
oui,
sujet.
C'est très délicat, en fait, dans notre...
Ça joue beaucoup dans le fantasme de domination.
Hmm.
Mais ils ne veulent pas le réaliser. Ils ne veulent pas se faire dominer bien souvent.
Oui, OK.
Mais le fait de le fantasmer, c'est l'abandon de soi. Puis c'est comme romantique. Regardez les romans érotiques dont tu parlais. Ouais. 50 nuances de Grey.
Histoire à faire. 50 nuances de Grey, vous voyez, moi, je me suis rendue à la page 186, me suis tannée. C'était trop long.
Ah, OK.
Trop long. Moi, les histoires à faire rougir de Mary Grey, c'est les meilleures. C'est concis, c'est court, c'est droit au but.
C'est bon, désir spontané, mais... 5 jours, le film, l'as-tu vu?
Oui. Non?
C'est assez spontané qu'on s'y est aussi.
Ah oui, bon ben ça, il y a beaucoup de femmes qui capotent sur ce genre de film-là. Puis c'est des prises de saisie, de domination assez rough.
Ah oui,
là.
Ah oui, elle se fait prendre partout. Même.
Ouais, c'est ça. Mais tu demandes à une personne qui a aimé le show, veux-tu faire ça? Ah, ben là, je suis pas sûr. Là. Fait qu'il y a une différence chez la femme entre le désir de réalisation du fantasme ou non.
J'aime l'image qu'on se fait des fois, moi et Rich, dans le Spacecast. C'est comme, après ça, regarder un chat qui regarde dans sa litière et qui est comme dégoûté de par ce qu'il a fait. c'est comme, ça vient tellement attaquer nos mœurs. On est comme, oh, non, mais je peux pas croire que j'ai pensé ça. Alors que c'est de l'excitation, c'est de la sexualité.
Ben oui.
À toutes les sauces.
Mais il y a beaucoup de gens qui avaient, par exemple, un fantasme de triolisme et qui, une fois... Sur place, ça se passe pas du tout comme dans leur fantasme. Ils auraient préféré le garder dans leur tête.
Exact, le sentiment d'exclusion. Là, tout d'un coup, l'autre est avec l'autre partenaire plus qu'avec moi.
Je dirais là, on suit ce que j'ai écrit, s'il vous plaît, à la lettre pour que ce soit la plus belle soirée de ma
c'est
vie,
ça,
OK?
C'est ça. Mais il y a des gens qui ont des désirs temporels aussi. Genre, ils sont allumés juste le matin ou juste l'après-midi ou juste la fin de semaine.
Est-ce que c'est une question d'hormones, ça?
Non, il y a des gens que c'est leur profil de désir. Là. C'est axé sur un moment de la journée en particulier.
Okay.
C'est vendredi, on fait l'amour.
Ouais. Est-ce que les... je ne sais pas pourquoi je pose la question, là, mais est-ce que les hommes, il y a quelque chose aussi de physique là-dedans avec la fameuse érection matinale?
Ah ben oui.
Ils sont comme tant qu'à faire, tu sais.
Non, parce que c'est pas... L'érection matinale des hommes n'est pas forcément associée avec un désir sexuel.
Non, c'est ça. En fait, j'ai déjà vu l'explication sur Internet par Anne-Marie Ménard, qui est très intéressante d'ailleurs.
Ben oui.
Elle explique que c'est les muscles qui relâchaient, et parce que ça relâchait, ça faisait un effet de
C'est ça. Il ne faut pas penser que c'est une érection d'excitation.
Okay.
Ça peut l'être. mais pas systématiquement.
Dans ma vie, ça a souvent été 7 fois sur 10. C'est pour ça que je le demande. Le matin? Tellement.
Ben, y a des gens qui en profitent là, parce que c'est tout le complexe érotique à l'intérieur de nous là, peut être associé avec plein de choses. Il y a des gens que pendant qu'il y a une érection, ça lui fait vivre des sensations. Puis là, tant qu'à être là, puis l'autre est disponible, ben, let's go.
OK.
S'ils combinent ça avec un profil type matin,
Ça va ensemble.
C'est ça. Fait qu'il faut pas penser que dans le monde des désirs et de l'érotisme et des comportements sexuels, il y a des styles purs. Ça peut s'entremêler ensemble.
OK.
Là, on tombe dans la... Ouais, plus dans le coaching relationnel. Quelqu'un qui demande si... pour faire remonter l'estime de soi quand on a toujours été rejeté,
ouais.
Comment faire pour... C'est vrai que ça doit être difficile, tu sais, de vivre... du rejet constamment. Là.
Oui, ben, il va falloir commencer à construire quelque part.
Oui. Est-ce qu'il faut faire une pause ou on est correct?
On est correct. On OK, file, cool. Oui,
on excusez, une chance qu'elle est là.
C'est beau.
Oui, donc...
Moi, je le vois souvent, ça, avec quand je coach des gars qui veulent travailler leur séduction. Puis ils sont... À l'intérieur d'eux, c'est tout démoli. Là. Fait que moi, je leur dis, on va travailler la création d'un nouveau succès à travers les approches, mettons, de, si la personne est hétérosexuelle, veut approcher une femme. Là, je vais lui dire, par exemple, un petit truc. Trouve-toi un wing, là, un assistant, ton meilleur ami. Puis là, vous allez fixer le défi suivant. Tu vas donner 4-5 $ à ton ami, puis il va te redonner 5 $ à chaque fois que tu vas aller aborder une personne. Fait que ton vrai succès, c'est pas de coucher avec le partenaire ou d'avoir un numéro de téléphone. Ton vrai succès, c'est d'aller aborder.
C'est te sortir de ta zone
juste
de
dire bonjour à la personne. Puis là, tu reviens à table voir ton meilleur ami. Ton point de sécurité, là, tu sais, qui compense ton insécurité. Puis là, la personne, elle est insécure, elle a de la misère, elle n'a pas une bonne estime de même. Puis là, elle ose aller aborder quelqu'un. Puis là, ça se passe pas super bien d'habitude parce que les gens sont super nerveux. Puis là, elle revient vers son ami qui lui donne 5 piastres. Hey, c'est super! Fait que là, ça crée une espèce de renforcement extérieur.
Oui, puis l'habitude, puis le
un système de récompense, puis ça te fait une fleur quand tu te dis, hey, j'ai réussi.
J'ai réussi ça.
Puis ça n'a pas été si pire que ça.
Exact. En psychologie, on le fait souvent dans le travail sur les traitements de phobie. On va créer une hiérarchie de plans d'exposition pour des situations difficiles.
Ouais.
Puis là, on va progressivement augmenter le niveau de défi avec des exercices de reprise de contact avec soi-même, de respiration, de relaxation, en s'exposant à un petit défi. Donc, c'est un petit peu la même chose que ce que je suis en train de vous mentionner là. Il faut bâtir à quelque part un premier succès.
Ouais.
Un succès comportemental. Pensez pas que c'est à force de lire des livres puis de réfléchir à l'intérieur de vous que vous allez développer cette affaire-là. C'est à travers l'expérience que vous allez avoir des apprentissages qui vont se faire. Mais ces expériences-là, il faut que ce soit délicate.
Mais osez aussi sortir de chez vous tout seul. Un de mes collègues ici à la radio m'a dit une fois, « Ah, ça, j'aurais tellement été au resto. » Mais vas-y. « Ah non, je suis seule. » Mais voyons. Les moments les plus fun où je suis allée au resto, ou presque, là, c'est sûr que c'est toujours le fun d'aller au resto, mais toute seule au resto, tu t'assois au bar, tu jases avec plein de gens, tu fais des super belles rencontres, c'est toujours le fun. Puis si tu y vas en plus avec une belle attitude, tu as confiance en toi, fais semblant que tu as confiance en toi, au pire. Wow,
tu dis ça parce que tu es dans les hauts niveaux de standards de beauté pour la culture actuelle.
Ben, voyons!
Parce qu'un homme...
Hey, on m'avait Thérèse au secondaire, là.
Un homme qui ne présente pas des standards élevés de beauté, il s'assoit au bar, puis personne n'y parle.
Ouais. Parce que c'est froid.
Exact.
Non!
Puis la personne qui nous parle, c'est...
Je suis persuadée que s'il est souriant, s'il est sympathique souriant, c'est une attitude positive, il va se faire approcher.
J'aurais plus
distorsion cognitive de Mélanie en direct.
Ouais. Pensez!
J'aurais plus tendance d'appuyer parce que la personne qui nous pose la question, non seulement c'est un homme, mais aussi issu de la communauté LGBT. Alors, c'est pas écrit non plus dans le front de tout le monde, je suis gay. Alors, il y a cette difficulté-là supplémentaire en plus d'arriver puis de s'approcher puis d'avoir peut-être une chance sur deux de se faire dire désolé.
Ah, c'est ça. Puis les codes dans la communauté LGBT sont pas les mêmes partout. Mais dans certaines communautés où il y a plus de gens, parfois, il y a des codes comme le maintien du regard.
Ouais. Mais vous avez l'air tellement plus simple, par exemple. Fait que soyez vous-même. Puis le truc des 5 $ là, essaie-le la prochaine fois que tu sors puis que tu vas...
Ça prend un ami.
Oui, avec un partenaire plus un, ça serait vraiment une bonne idée.
Hey, c'est terminé, je peux pas croire.
Quand est-ce qu'on fait un show de 2 heures?
Ça patron, va être... s'il vous plaît, ça nous prend 2 heures.
On n'a pas le choix. On a des quotas francophones, ça va nous prendre 120 minutes.
Ouais, on n'a pas le choix. Merci. Merci, Dr. Simard. C'est déjà terminé. Merci, Camille. C'est toujours tellement le fun avec toi.
Ben, bonne fin de semaine à tout le monde. Explorez-vous. Dr. Paul Simard, psychologue, pour vous suivre sur TikTok, Instagram, Facebook, site Internet.
Je suis partout. Non, non, pas de site Internet. Ça, c'est la technologie des années 90.
Oui, c'est bonne réponse.
Tous les sites de réseaux sociaux, par exemple, je suis partout.
OK.
Yes.
Parfait. Et le mardi avec Robbie.
Yes.